Alors Cecilia Pavone, c'est une autrice argentine qui est elle aussi traductrice. Et elle est autrice de ce recueil, Bonbons à l'anis. Et elle avait aussi, avec une amie à elle, Fernanda Laguna, elle avait ouvert un espace d'art qui s'appelait Belleza et Felicidad. Donc elle est à cheval, elle travaille dans la poésie et dans l'art, quoi. Et c'est Marion Vasseur à lui qui travaillait à Buenos Aires il y a quelques années, qu'il a lu et l'a rencontrée à cette occasion. Et à qui, donc, Cécilia a dit, bah, vas-y, traduis-moi, en fait, tu peux traduire ton français. Et puis Marion, bah, comme moi et comme Mona Varichon, avec qui on a publié le livre aussi, traduit et publié, parce que c'est Brooke et Varichon aussi, les maisons d'édition. T'es toutes les trois traductrices amatrices. Et ouais, voilà, c'est un recueil qui s'appelle Bonbons à l'anis. Et le poème que je pensais lire, il n'a pas vraiment de titre, mais voilà, il est là. Page 126. Pour écrire ces lignes, je dois oublier un instant l'étendue de ma passivité. Une sorte d'acte militant pour moi. Alors que je regarde les rails du train, les mains dans les poches de mon manteau. Pour écrire ces lignes, je dois m'extraire de l'ivresse que sont les mots des autres. J'aimerais aller de maison en maison et simplement parler, être une avec les autres. Avez-vous déjà vu un homme ivre et aveugle chercher le chemin des toilettes dans un bar ? Il en cogne certaines avec sa canne et ce son se mélange à la musique. De vieilles chansons comme la fumée dans les yeux et les pas d'une femme. Pour écrire ces lignes, je dois fermer les yeux et jeter mes épaules en arrière.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Il se passe quelque chose, l'émission poétique de Radio Campus Paris, une émission centrée cette fois autour de la langue. Pas l'organe charnu, allongé et mobile placé dans la bouche, quoique, mais aussi tout le système d'expression et de communication qui permet ou non de faire communauté linguistique, donc qui crée du commun autant qu'elle distingue, autant qu'elle sépare. On parlera donc aussi de ce qu'est la traduction, passage d'une langue à l'autre, ce que ça retire, ce que ça ajoute, et comment traduire. C'est déjà de la poésie en tant que c'est la traduction de phénomènes, de sensations, et que c'est une expérience profondément transformatrice. Pour ça, j'ai proposé à Rosanna Puyol Bourralévi d'être notre invitée ce soir. Salut Rosanna.
Coucou, salut.
Rosanna, je vais essayer de faire ton CV qui est complexe. Tu es poète, traductrice, éditrice, et tu as fondé la maison d'édition Brooke, qui publie des traductions de textes nourris par les luttes féministes, queer, décoloniales. Et toi-même, tu as une pratique qui est à la lisière de la poésie, de la recherche et de la traduction. Ton premier recueil de l'or qui vient d'être publié chez After Eight Books, mais on entendra aussi des textes que tu as écrits au contact d'autres artistes, d'autres médiums artistiques, la danse, la musique, etc. Est-ce que j'oublie quelque chose, Rosanna, pour te présenter ?
Non, je crois pas, c'est super, merci beaucoup.
Et puis, merci à Sylvain Pinault qui arrive en studio, super réel, super pote, qui est en train de discuter un peu avec tout le monde. Et qui va nous accompagner pour cette émission.
Ok.
Une petite heure de poésie sur Radio Campus. Alors, pour commencer, Rosanna, je voulais qu'on parle d'abord de ta pratique de traductrice, avant peut-être de rentrer deep dans la pratique de poète, même si j'ai l'impression que tout se chevauche un petit peu dans ton travail.
Ouais.
Mais ça peut peut-être nous aider à comprendre aussi mieux ton écriture.
Mm-hmm.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la jeunesse de Brooke et comment tu as voulu monter cette maison d'édition qui est centrée autour de la traduction?
Ouais. Bah carrément, parce que donc avec Brooke, pour l'instant, je publie que des traductions, principalement de l'anglais parce que c'est la langue que je lis, mais il y a aussi un recueil de textes qui est paru traduit du portugais du Brésil, texte à lire à voix haute. Et donc Brooke, c'est de la traduction parce que c'est après quelques années passées à vivre à Londres, en rentrant à Paris, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas traduites, ce qui, par ailleurs, me semblait tellement essentiel et transformatrice et ayant eu un impact tel pour plein de gens avec qui je travaillais à l'époque, plutôt artistes ou amis ou les deux, et de se rendre compte que c'était des textes principalement liés d'abord à des engagements féministes qui étaient un petit peu discutées mais de manière hyper superficielle en France et donc complètement insuffisantes, et que c'était forcément lié à un grand conservatisme, puis enfin aux politiques réactionnaires peut-être de l'édition française aussi, je sais pas, enfin si, je crois. De voir à quel point c'était rageant, en fait. La première autrice Brooke, c'est Laura Mulvey, c'est une critique féministe du cinéma, une philosophe britannique tellement importante, qui a développé la notion de regard masculin, et en fait de se rendre compte qu'elle était un tout petit peu traduite, mais que un livre entier publié par elle avait jamais été traduit en français. Enfin, je trouve que c'était hyper, comment on dit, symptomatique de comment est-ce qu'on pense la transmission et l'enseignement aussi. Moi, je viens plutôt de l'art, du coup, dans le contexte beaux-arts, ou de se dire où, en fait, aborder à l'école des questions de lutte féministe, des questions de lutte antiraciste, c'est hyper. C'est toujours très freiné. Mais je pense que. Enfin, j'espère qu'en traduisant des textes et du coup en les rendant disponibles pour des programmes d'éducation, ils peuvent entrer dans les conversations, être étudiés plus facilement et être critiqué, être réfléchi, et du coup entrer dans une pratique plus quotidienne de recherche au moment des études. Peut-être que ce qui était dramatiquement pas le cas, ce qui n'est encore pas beaucoup, j'imagine, mais que beaucoup de gens essayent de transformer.
Donc le but des traductions, c'était un but essentiellement pédagogique.
Et pédagogique au sens large, vraiment, de aussi comment est-ce qu'entre nous, c'est plus difficile de parler en français de choses qu'on a lues en anglais. Et comment est-ce que ce soit un niveau amical ou familial ou professionnel et éducatif, enfin comment est-ce que on peut changer de vie avec ces idées, quoi. Et du coup, Brooke, ça a aussi commencé avec des ateliers, avec des groupes de lecture à la maison, chez moi ou chez des copines. Ça a été un moyen pour moi de me faire des amis, de rencontrer des nouvelles personnes avec qui travailler et avoir des échanges intellectuels après quelques années de pas être en France, du coup de connaître moins de gens, etc. Et en fait, en groupe de lecture, on travaillait souvent des textes en anglais qu'on lisait à voix haute, et pour en parler, qu'on devait un peu traduire forcément dans une certaine mesure. Et notamment, il y a un texte qui est devenu un livre Brooke, qui s'appelle Creuser l'utopie, de José Esteban Muñoz, qui est un livre qui mêle critique d'art et récit d'expérience, de performance, mais de vie aussi, de fêtes, de pratiques sexuelles, pour chercher les signes spécifiquement dans des œuvres des années 70, enfin fin 60, début 70, pour chercher les signes d'un futur moins raciste, moins homophobe, moins sexiste. Et ça, c'est un livre dont on avait lu des extraits en groupe de lecture. Et du coup, c'est vraiment le groupe de lecture qui a fait que... que oui, en effet, ce livre, il est trop génial. Je suis pas la seule à le trouver trop bien, et que le publier, ça a un intérêt, quoi.
Et donc, dès le départ, puisque c'était des groupes de lecture, il y avait cette dimension un petit peu collective dans la traduction.
Ouais, et d'ailleurs, pas mal de gens qui ont fait des groupes de lecture, enfin, on était très peu, mais on a ensuite participé au groupe de traduction. On fait relais, et on dit, je peux pas, mais bon, il y a elle qui peut, il y a lui qui peut.
Et du coup, c'est quoi les groupes de traduction de
Brooke ? La traduction collective avec Brooke, ça a commencé à l'occasion du travail sur un livre, qui est déjà un livre collectif parce qu'il est écrit par, deux amis, Fred Moten et Stefano Arni, qui tous les deux ont réuni des textes sous le titre Les sous-communs, planification fugitive et études noires. Et ce livre-là, il était paru en 2013. Et en fait, les deux auteurs, au moment où moi je les ai contactés, où j'ai contacté leur éditeur pour savoir si les droits étaient disponibles, la maison d'édition qui est vraiment trop géniale, c'est un petit éditeur un peu weirdo aussi, trop, trop chouette, qui du coup leur a demandé, et ils ont eux-mêmes demandé à ce que la traduction soit collective, parce que moi je savais pas trop, déjà je savais pas trop comment... mener une maison d'édition, mais surtout une traduction collective, je me disais, à faire travailler ensemble des traductrices, comment ça se passe, comment on peut rémunérer les gens, qui veut bien faire ça, et tout ça. Et du coup, avec Léna Monnier, et puis ensuite Sander Tuntun, on a coordonné des ateliers ouverts aux gens qui, par chance, avaient l'info dans différents espaces qui étaient plutôt des lieux d'art. Et d'abord, par exemple, à 13, qui est un lieu d'expo et de production de fêtes indépendant dans le 11e, à Paris. Puis ensuite, dans plein d'autres endroits, à Marseille, à Montpellier, à Bruxelles, en Suisse, à Genève. Et en fait, on a organisé ces ateliers où à chaque fois, on faisait vraiment des repas délicieux. Et ce qui permettait de passer une journée à plusieurs, à travailler en ayant vraiment petit-déj, déjeuner, goûter et tout, de manquer de rien sur place. Et à être tous ensemble autour du texte, avec la traduction projetée, à travailler vraiment de concert, quoi.
Donc il n'y avait aucune... rien n'était en îlot, quoi. Tout le texte était pensé collectivement.
Bah presque, ouais. Au début, on avait commencé en sous-groupe, et puis en fait, il y avait un truc étrange qui s'installait de hiérarchie entre les personnes qui avaient traduit de leur côté, et ensuite, quand tout le groupe repassait et qui venait corriger un peu. Et donc, ça a pas très bien marché. Et du coup, on a repris autour de la table avec celles qui voulaient bien participer, qui participaient beaucoup, celles un peu moins qui participaient plus en, peut-être en recherche, en disant « Ah mais attends, ça, je reconnais, c'est les paroles d'une chanson. » Par exemple, à un moment, il y avait des paroles d'une chanson de Bob Marley qu'on allait traduire en automatisme, tu reconnais pas les mots. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui chante un peu les mots et qui dit « Ah non, mais en fait, ça se traduit pas comme des mots qui sont pas de la musique, c'est de la musique. » Et ouais, du coup, il y avait plein de positions différentes, en fait, selon le rapport à la langue, selon la timidité de chacun, chacune. Il y a même une fois où il y avait quelqu'un qui parlait ni anglais ni français, or la traduction, c'était de l'anglais au français, mais elle était italienne. Et du coup, en fait, il y a un truc, il y avait un... Dans le bouquin, il y a beaucoup de références à... J'ai l'impression que je vais mal dire, mais au mouvement autonome et à l'autonomia et au péraïsme. Et en fait, il y avait un moment où c'était vraiment trop bien d'avoir quelqu'un qui était familier au moins des noms propres de personnes dont eux parlaient. Et du coup, la traduction, elle s'est faite par ces détours-là, quoi.
Ben, on peut peut-être lire un petit peu de Fred Motten.
Ah ouais, carrément.
Je sais pas ce que t'en penses.
De Fred Motten et un extrait de Fred Motten et Stefano Arni, qui est à la fin du livre. C'est plus des essais, mais une conversation entre les deux auteurs et leur éditeur. Et on a traduit ça. On n'a pas traduit de manière chronologique en faisant la traduction collective, parce que, ben en fait, souvent, il y avait des gens qui arrivaient en disant « Mais moi, je travaille sur sur des luttes anticarcérales. Je sais qu'il y a ce passage-là sur l'université et la prison dans le texte. Est-ce qu'on peut traduire ça ?» Du coup, ben, on sautait directement à ce passage-là. Mais la conversation qui est à la fin du livre, on l'a quand même traduite à la fin, et en la traduisant, moi je me suis rendu compte à quel point, en fait, la traduction collective et les ateliers, ça avait été une application hyper littérale de ce que eux parlent et des outils que eux proposent dans le livre, qui sont des outils de lutte contre le capitalisme racial à partir de descriptions d'outils du capitalisme racial, comme la banque, le système bancaire, l'université et tout ça. Et notamment, un de ces outils, c'est l'étude noire, donc comme le dit le sous-titre. Et du coup, sur l'étude, c'est Fred Motten qui répond à une question. Et c'est juste un petit passage. Fred, la plupart des questions posées sur Facebook étaient de l'ordre de « Comment est-ce qu'on entre dans les sous-communs ?» Eh bien, tu vois, les sous-communs, c'est une boîte. Et si tu l'ouvres, tu peux entrer dans notre monde. Certaines semblent réticents au terme « étude ». Mais y a-t-il une façon d'être dans les sous-communs qui n'est pas intellectuelle ? Y a-t-il une façon d'être intellectuelle qui n'est pas sociale ? Quand je pense à la manière dont nous utilisons le mot « étude », je crois que nous sommes attachés à l'idée que l'étude est ce qu'on fait avec d'autres. C'est parler, se balader avec des gens, travailler, danser, souffrir. Une irréductible convergence des trois contenus dans l'expression « pratique spéculative ». Il y a une idée de répétition. Être dans un genre d'atelier, jouer dans un groupe, en impro. Des vieux assis devant chez eux ou des gens qui travaillent ensemble à l'usine, ces différents modes d'activité. L'intérêt d'appeler ça étude est de souligner que l'intellectualité incessante et irréversible de ces activités est déjà présente. Ces activités ne sont pas anoblies parce que maintenant nous disons « Oh, si tu faisais ces trucs d'une certaine façon, on pourrait dire que tu es en train d'étudier ». Faire ces choses signifie être impliqué dans une sorte de pratique intellectuelle commune. Ce qui est important, c'est de réaliser que ça a déjà été le cas. Parce que cette réalisation te permet d'accéder à toute une histoire de la pensée, diverse, alternative.
Et du coup, comment vous travaillez sur, comment tu travailles sur le choix des auteurs RIS qui sont publiés chez Brook, maintenant que peut-être t'as épuisé ta liste des 3-4 noms qui manquaient absolument
C'est vraiment par recommandation. Enfin, comme les lectures qu'on fait, comment elles arrivent, c'est... toi, ça a changé ta vie, du coup, tu me l'offres. Ou on travaille sur tel projet, on parle de tel sujet. Et c'est juste par... vraiment par kiff. Et par kiff d'autres personnes, surtout, qui vont dire « Ah, mais il faut absolument que tu lises ça. »
Est-ce que le fait d'avoir travaillé dans ces ateliers de traduction collective, ça a eu un impact aussi dans ta propre pratique de traductrice plus solitaire?
C'est vraiment comme ça que j'ai appris à traduire. J'avais jamais fait de traduction avant de faire de la traduction collective. Avec les ateliers de traduction pour Brook, des sous communs, mais aussi avec d'autres groupes, avec le collectif How to Become a Lesbian, par exemple, ensuite avec d'autres, autour d'autres livres, avec Mona Varichon et Marion Vasseur à lui pour un autre recueil de poèmes de Cécilia Pavone qu'on a traduit à trois. Ensuite, autour du travail de Jill Johnston, qui était une critique de danse, critique d'art, autrice, militante lesbienne, qu'on a publié aussi avec Brooke, et là qu'on a traduit à quatre. Et du coup, c'est vraiment en faisant de la traduction collective que j'ai appris à faire de la traduction. Donc de manière pas universitaire et académique, mais en travaillant avec des gens qui avaient des raisons très précises de vouloir traduire les textes, par intérêt, par expérience de vie, par engagement politique, pour des raisons différentes. Et ensuite, ça fait un an et demi, peut-être presque deux ans que je travaille pour Le Funambuliste avec deux autres traductrices. Et donc on est en équipe aussi, mais on travaille individuellement sur chaque texte, en se relisant les unes les autres. Et là, en fait, c'est des textes qui sont et des récits, et des entretiens, et des analyses historiques, et peut-être des choses qui pourraient plus s'apparenter à de la fiction, du manifeste. Enfin, c'est aussi plein de genres différents et qui se mélangent. Et en tout cas, c'est sûr que travailler de manière collective, ça m'a vraiment donné à la fois des outils pour savoir comment faire, un peu aussi apprendre à poser les questions à d'autres ou à Internet ou n'importe quoi, à utiliser beaucoup l'oralité dans la traduction, parce que quand on traduit à plusieurs, se lire ce qu'on se dit ou ce qui est écrit, c'est hyper utile. Et du coup, que ce soit dans l'écriture de poétique ou dans la traduction, continuer cette pratique d'imaginer que... Enfin, en fait, de s'écouter, mais vraiment au sens... littéral de talala, talala, enfin de se lire les phrases comme outil de travail, par exemple. Je sais pas si j'aurais pensé sans la traduction collective, enfin, je sais pas si j'aurais appris ça.
Et du coup, tu pourrais presque dire que tu as un style de traductrice comme tu as un style d'écrivaine, de poétesse, ou est-ce que chaque texte repose des questions, ou tu commences à avoir justement des automatismes de traduction?
Je pense qu'il y a forcément un style parce que, on a, même si on en a plusieurs, on a ses écritures. Et notamment, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en traduisant avec Maboula Soumaoro sur la traduction d'un autre livre Brook qui est paru il y a peut-être un an et demi, À perte de mère de Sadie Hartman. Et donc, Maboula Soumaoro a traduit le texte, elle en a écrit la préface de cette traduction. Et c'est vrai qu'en lisant cette traduction, enfin, je m'étais jamais rendu compte à quel point. Je le savais en théorie, mais de le constater et de le sentir à la lecture, à quel point la traduction est un autre livre et à quel point son écriture est tellement majestueuse et fabuleuse à l'endroit de cette traduction et de ce livre. Et du coup, je sais pas... Enfin oui, évidemment, chaque texte, c'est différent parce qu'on essaye de traduire le style de l'autrice. Et par exemple, je me posais la question face à quelqu'un qui est assez ironique. Comment est-ce que... ce qu'elle dit en anglais, on sent un espèce d'humour dans le français, j'arrivais pas à le traduire cet humour, du coup à ajouter quelque chose d'un peu soutenu dans sa langue, et du coup un usage du passé simple qui peut paraître un peu étrange. Enfin, après c'est bateau comme outil, hein, mais je sais pas, je trouve que ça crée un truc un peu drôle et bizarre qui souligne ce qu'elle par un autre moyen ce qu'elle elle fait en anglais, je crois. Elle produit encore un espèce de discours un peu bizarre, enfin une écriture, je sais pas, qui sonne, j'ai pas vraiment les mots, mais... Mais en tout cas, faire sonner étrange l'écriture, par exemple, ça c'est trop excitant, mais... Le spectacle avait commencé la veille. Avec Sandar, on mangeait la pizza du truck au bord du Rhône. Des libellules toutes neuves se posaient sur le carton pimenté. Mais tu crois, c'est quoi ? Une queue semble marine, en cours. Elles sont transparentes, tachetées. Idir joue en boucle depuis peut-être 3h20. L'album où il y a « Ah, va, va et nous va, mon cœur va céder, mon cœur a cédé », on n'en revient pas, on s'en remet du spectacle, on n'en revient pas. Quand on change, les libellules se sont relayées sur notre table éclairée avant de s'envoler. C'était, je vous jure, leur premier envol. On voyait leurs ailes se décoller par tout petits à-coups. Eau, pizza, lumière. L'étape suivante, c'était l'ampoule si forte du réverbère. Catole a commencé à danser avant que le spectacle ne commence aussi. On entre dans la salle, la scène est dans l'ombre, mais quand on s'assoit, on regarde mieux autour. Et puis en fait, on la voit. On le distingue, à peine. Mais je sais qu'elle est là, et je crois même qu'elle sourit. En tout cas, moi je souris. Et elle est assise sur des caisses. Les jambes balancent déjà, ou bien elle ne bouge pas. En tout cas, elles sont écartées, ses jambes, comme si elle était à quai. Je sais plus comment ça commence, la musique ou la danse, ou la lumière, comment savoir, quand le sang s'agite, quel sang. Elle est trop bonne, je t'aime trop, mais serre-moi comment les cordes autour de Catole sont nouées. Qui, tu le fais tout seul? Tu le fais toi? À la fin du show, je vous attends à l'ombre du soleil, on voit le soleil quand on sort du spectacle. Allez à la lumière, Sandar à la musique, Catole à la danse, qui tourne le cœur, c'est le contraire de retourne. Comme révolution, avant ça voulait dire restauration. Mais Hannah Arendt explique qu'à un moment c'est devenu révolution au sens de rébellion. Le cœur a tourné. Catole tourne, je crois que c'est un mouvement important et elle se penche aussi et des tremblements. Le silence est dans la musique et dans la danse, c'est un mouvement aussi. Comment le son bouge et te bouge, tu nous parles de la peur et on n'a pas peur. Tu nous parles de la douleur et on sent pas la douleur. Je te remercie, tu nous parles de la joie et on ressent la joie. Comment tu fais pour nous inviter que là où on veut aller? Surtout, je crois, on ne savait pas qu'on voulait y aller avant que tu nous dises « Allez !»
Tu viens de lire Rosanna, la toute fin de Dlore, ton premier recueil de poèmes qui a été publié chez Afterlight cette année. C'est l'occasion de juste reprendre un petit peu sur toi, ta pratique de poétesse, écrivaine, puisqu'on a plus parlé en première partie d'émission de ta pratique de traductrice. Quand est-ce que tu t'es mise à écrire de la poésie? C'est quoi ton rapport à la poésie? Et comment il a pris de l'espace dans ton travail d'artiste plus généralement.
J'ai l'impression que la poésie c'est vraiment ma première, enfin un peu ma grille de lecture pour tout le reste, et que ce soit la traduction ou la collaboration avec les artistes en général, ou j'ai l'impression d'avoir commencé plein de choses grâce à la poésie, d'avoir rencontré plein de gens grâce à la poésie, de m'être intéressée à certaines pratiques parce que j'essayais de les décrire de manière en poème, et que c'est une manière pour moi aussi de raconter ce que je vois, ce dont je suis spectatrice, des conversations, des interactions avec des amis, avec des trucs imaginaires, avec des œuvres, beaucoup de conversations avec des amis que j'aime retranscrire parce qu'il me semble que c'est souvent qu'il y a des trucs super intéressant qu'on se raconte l'air de rien, et l'idée d'avoir le poème un peu comme lieu d'inscription de ça. Et donc la poésie, j'ai commencé, je pense, plutôt en passant du journal intime ado à l'écriture de poèmes, sans changer grand-chose dans le contenu et dans les phrases, mais en changeant beaucoup de choses en termes de perception de moi-même et de ce que c'était que l'écriture, en termes de Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait de manière très personnelle et tournée vers soi, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être plus professionnel, je sais pas, je crois, mais en tout cas plus, enfin, qui peut presque changer de statut. Et je me souviens très bien du moment où je suis passée du journal intime à me dire, en fait, c'est pas mon journal intime, c'est mon livre, et c'est un carnet et c'est pas un diary. Et c'est après une expo que j'avais vue avec des copines avec plein d'artistes femmes. C'était le, enfin, c'est idiot, mais c'est l'expo Elle à Beaubourg. Et en fait, enfin, j'ai bizarrement un peu reconnu des choses qui étaient présentes dans les œuvres, qui étaient aussi présentes dans mon journal. Et je me suis dit, bah vas-y, moi aussi, je peux avoir ma voix, elle peut être, elle peut avoir ce statut-là, peut-être. Et aussi, sachant que c'est plutôt par impression d'incompétence que j'écris de la poésie, dans le sens où j'ai l'impression de un peu faillir à écrire des romans, faillir à écrire des histoires, faillir à faire des phrases. Et du coup, le poème, c'est le langage que je manie, et que c'est peut-être des choses contradictoires, mais en tout cas, pour moi, l'écriture poétique, c'est vraiment pas vraiment un choix, mais en tout cas, enfin, un choix de dire que c'est de la poésie, mais pas un choix de le faire comme de la poésie.
Et quand on s'en est parlé la première fois, tu disais aussi que c'était une pratique un peu dangereuse pour toi, la poésie, puisque tu avais un rapport un peu inquiet au fait d'avoir aussi ces phrases dans ta tête, ces phrases que tu récupères, etc. Et que c'était une façon un peu de dépasser un peu cette inquiétude et d'en faire un objet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'histoire de cette inquiétude par rapport à la poésie ?
Je crois qu'il y a un peu un espèce d'état d'écriture qui est assez compulsif, où souvent j'ai l'impression de pas trop avoir le choix d'écrire, où il y a une phrase et je veux absolument l'écrire, ou il y a un truc qui tourne et je veux absolument le mettre sur le papier, que ce soit. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment. Enfin, rarement je m'assois en me disant je vais écrire. J'ai l'impression que je dois m'asseoir parce que je vais écrire. La question de la crainte, elle vient peut-être d'un rapport à la santé mentale et à la peur de reconnaître des troubles que j'ai pu avoir par le passé. Et du coup, d'avoir une extrême porosité à son environnement, et notamment à son environnement sonore, et de plus faire la différence entre ce qui sort des autres ou de soi. Et par exemple, c'est quelque chose dont j'ai pu avoir beaucoup honte, d'écrire les paroles, les mots des autres, en me disant mais j'écris ce que racontent les autres, est-ce que j'écris ? Alors que oui, si tu regardes le geste, t'as la réponse. Écrire et vraiment reconnaître et manifester cet intérêt pour la voix d'autre, peut-être que plus que pour la sienne, ou du moins de manifester cet égard pour ce que racontent les autres, et du coup pour sa propre écoute, et donc sa manière de considérer, de donner de l'importance, d'aimer, et de reproduire. C'est quelque chose qui... Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que permet le poème. Et c'est chouette. Enfin, je remercie pour cette raison.
Il se passe quelque chose sur Radio Campus Paris 93.9.
Et c'est intéressant parce que je trouve que dans ta poésie, il y a un mouvement assez égalitaire entre les paroles des amis, dont certains sont des artistes, dont certains ont des réflexions théoriques, etc., mais d'autres pas du tout, peuvent être des parents, etc., et au contraire des intellectuels, etc., que tu convoques de façon sans hiérarchie. Et en même temps, du coup, il y a une dimension érudite, puisque justement il y a des références à des penseurs, mais en même temps c'est toujours en lien avec des petites phrases que tu as entendues, des amis, etc. Et tout s'incarne un petit peu ensemble dans les poèmes. C'est quelque chose que tu composes ou que tu recomposes, ou qui te vient naturellement?
Qui n'est pas vraiment recomposé, qui vient plutôt naturellement. Et je pense que ça vient aussi de la pratique de traduction et de traduction collective. En faisant de la traduction collective, on est à la fois dans un texte, mais dans un texte en tant qu'espace social, donc avec d'autres. Et du coup, la parole peut être soit celle du livre, soit celle, du direct, ou du repas, ou... Et donc ça crée forcément une espèce de même bande-son, enfin... Et aussi, je me sens assez vite à l'aise avec les autrices, et du coup, j'aime bien avoir des... Enfin, j'ai l'impression souvent d'être en conversation, et que ce soit de dire non, ou dire « Oh, ouais, merci ou... », ou... Je trouve ça assez facile avec la lecture, plus qu'avec les images, par exemple, pour moi. Et du coup, j'ai l'impression que l'écriture, que ce soit d'un livre, est beaucoup plus manifestement la parole de quelqu'un qui nous est adressée, mais en tout cas, même dans l'écriture d'un livre, entendre... ou plutôt lire les mots, ça se fait à la manière d'un dialogue. Et que les gens écrivent des dialogues, que ce soit en écrivant des romans, ou de l'histoire, ou de la théorie, n'importe quoi. Et du coup, insérer ça dans nos dialogues, je trouve ça drôle, et aussi ça aide à faire entrer les textes dans la réalité, où ils sont sûrement déjà, mais où... En tout cas, je trouve ça donne aussi beaucoup d'espoir pour se dire, ce livre, il peut changer le monde. En fait, matériellement, il est aussi fort que toi qui parles.
Et du coup, Delors, si on revient un petit peu sur ce premier recueil, comment il a été construit, pendant combien de temps, et son matériau, c'est quoi exactement ?
Delors, au départ, c'est à peu près un an d'écriture, 3 janvier 2020, fin 2020, début 2021. Et en fait, donc au départ, c'est un texte qu'on retrouve à peu près dans le recueil. Enfin, Delors, c'est le titre d'une partie du recueil. Et le recueil a beaucoup changé au fil du travail sur 2-3 ans avec l'éditeur Théo Robin Langlois, qui est aussi poète et libraire et éditeur de After Eight Books, avec Antonia et Benjamin, ses deux autres collègues. Et donc là, l'écriture s'est beaucoup étendue parce que c'est assez insupportable de suivre l'écriture d'un livre et le travail sur... Enfin, plutôt, de suivre le travail éditorial sur un livre sans le modifier constamment. Et du moins, ajouter ce qu'on écrit, parce que d'écrire un peu tout le temps comme ça, ça donne envie de le dire tout de suite un peu à tout le monde, quoi. Du coup, dans le livre, c'est à la fois linéaire et recomposé, dans le sens où c'est des longs poèmes qui succèdent et qui sont plutôt écrits chronologiquement. Mais qui sont ensuite les parties aussi pas mal réagencées. Et en tout cas, la fin du livre, c'est le moment le plus récent. C'est pousser un peu jusqu'au bout, jusqu'à quand est-ce qu'on peut rajouter des phrases dans le livre. Et c'est pour ça que j'aime bien lire ce poème aussi pour commencer, parce que pour moi, c'est un peu le début du livre d'après et de ce que j'écris aussi depuis, en dehors. Et ça me permet de voir le livre pas comme quelque chose de terminé, mais en tout cas comme la portion de quelque chose de plus grand. Et du coup, comme quelque chose qui est toujours en cours et qui fait toujours écrire, et pas comme quelque chose qui a un début et une fin, ce qui est de toute façon inexistant dans le recueil.
Et du coup, comment tu dirais que ton écriture a évolué, puisque tu dis que la fin, c'est ce qui te ressemble le plus. Il y a des choses qui te... Dans les premiers textes avec lesquels tu te sens moins à l'aise, est-ce que au contraire c'est quelque chose que tu assumes et revendiques, mais que en quoi il y a eu du changement ? Question très mal.
Ah non, pas du tout mal posée, mais c'est hyper dur, je trouve, d'imaginer. Je sais qu'il y en a beaucoup, et j'ai l'impression que par exemple il y a des espèces de moments d'homogénéité un peu où je peux dire ah mais à ce moment-là j'écrivais vraiment mais toujours la même chose, ou à ce moment-là dans Delors, il y a des moments qui sont plus des courts récits où vraiment je raconte c'est pas vraiment des histoires, mais en tout cas des petits événements et assez factuels. Et au fur et à mesure, peut-être se détacher de ça, et en même temps, c'est quelque chose que j'espère, enfin, auquel je reviens régulièrement. Peut-être qu'il y a la lecture de poèmes d'Eileen Miles avec une structure vraiment très fine, que vraiment ils ont l'air de petits serpents. Qui a beaucoup changé ma manière de composer les poèmes, ou vraiment d'avoir des lignes avec 2 ou 3 mots. Je sais pas pourquoi, ça m'a surexcitée comme manière de voir le poème. Et aussi, ça permet sur un carnet, au lieu d'écrire... sur un carnet, on peut écrire sur une page et puis sur l'autre, comme un livre. Puis après, de passer à 2 colonnes par page. Et ensuite, maintenant, j'écris à 3 colonnes par page. Et en tout cas, c'est de l'écriture manuscrite. Enfin, j'écris sur un carnet et d'écrire en colonne, enfin, ça forme énormément le texte, la place que le texte a sur la page. et parce que c'est aussi la place que le texte a dans la voix, et j'édite les poèmes en les lisant à voix haute, et de lire en ayant cette finesse là, enfin, et en même temps c'est assez grossier parce que c'est des coupes vraiment fortes, bah c'est trop agréable, mais ça dirige énormément ce qu'est la phrase. Je saurais pas comment dire comment, mais en tout cas pour moi c'est plus de l'ordre d'une espèce de partition visuelle comme ça qui va dire le son.
Tu les as beaucoup lus, tu les as beaucoup fait vivre ces poèmes en dehors de l'espace du livre?
Oui, un petit peu. Et je trouve que c'est vraiment la partie la plus joyeuse de se dire... en tout cas, moi, c'était mon espoir de me dire le jour où j'aurais publié un livre, je pourrais l'ouvrir et le lire. Bon, après, c'est pareil quand on imprime ses feuilles pour une lecture, mais je sais pas, ça me semblait un peu plus... juste trop chic d'ouvrir son livre, quoi. Et comme beaucoup d'éléments du livre viennent de l'oralité plus de la lecture, plus que de la lecture, même si en réalité c'est beaucoup de lecture d'écoute de radio qui viennent dans le livre aussi, et pas que des conversations, le fait de relire des choses qui ont été dites, et par exemple j'écris beaucoup ce que disent notre autrice avec qui je partage l'atelier, Star Finch, j'écris beaucoup ce que Yael dit, et son écriture à Yael ne ressemble pas du tout à ses livres. Enfin, son écriture ressemble à ses livres, évidemment, mais ce qu'elle dit, pardon. Sa parole ressemble pas vraiment à son écriture. Et moi, avoir sa parole dans mes livres, ça me fait trop... Enfin, je trouve ça trop passionnant et trop fantastique. Mais du coup, forcément, le rapport de voix, de différence, il est énorme entre le moment où c'est un truc que tu dis comme ça, quelqu'un l'écrit, et puis... La personne qui l'a écrite va le relire et c'est devenu un poème. Puis aussi souvent on oublie qui a dit quoi. Ça donne encore plus de plaisir à la lecture. Et puis quand on peut lire à voix haute et qu'il y a des personnes qui m'ont dit des choses qui sont autour. Bon, après ça c'est tout petit, hein, mais en fait c'est hyper réjouissant aussi. De vraiment parler, de littéralement être en dialogue avec les personnes avec qui on a été en dialogue. Enfin, presque en rediffusion.
Et du coup comment s'est passé le travail? T'as un peu parlé de cette relation avec ton éditeur. Mais au plus près du texte, comment ça s'est passé, cet agencement, cette façon de réécrire avec lui?
C'était des allers-retours où moi je transmettais le texte et lui me faisait des retours sur des passages qu'il trouvait moins bien que d'autres, des retours très petits au sens de minutieux, vraiment à la virgule, enfin interroger une virgule, un accent, une orthographe surprenante... Et du coup, c'était vraiment de travail vraiment à l'intérieur, enfin vraiment le nez dans le texte. Et aussi d'agencement d'un point de vue beaucoup plus haut, quoi. En se disant, mais ça pourrait commencer par ça et pas par ça. Est-ce que ce qui est au milieu là, ça devrait pas être un peu des grosses coupes de montage? Et notamment, le livre a longtemps commencé par de l'or, justement, et par un rêve. Et je suis très contente que... Je sais plus comment on en est arrivé à changer ça. Mais en tout cas, je suis très contente que maintenant, le livre commence plus par un rêve, mais par vraiment un moment avec 3-4 amis de concerts, de musique et de départ en vacances. Et de rigolade. Et pas par ce rêve qui était en fait une traduction d'un livre de Eileen Miles. D'un petit passage d'un livre de Eileen Miles où elle raconte un rêve. Et non, pas un rêve, elle raconte... Oui, parce qu'en fait, le rêve, il est plus dans le lore, pardon, je dis des bêtises. Il a disparu, mais je crois. Mais en tout cas, il y a un petit passage sur ce que sont les rêves et Eileen Miles dit les rêves, c'est tout ce que font les morts, les mortes. Et par exemple, ça, c'était un peu un gros mouvement pour moi parce que commencer en début de livre, on se dit que c'est un peu important. Et je suis contente que ça commence pas par cette question du rêve et de la mort, même si la question du rêve et de la mort reste hyper importante à travers le livre. Enfin, je suis contente qu'on arrive et que la première pièce soit habitée par des amis, des gens, une question d'amour et d'humour que de perte et d'imagination.
Très bien. Est-ce qu'on peut, avant de peut-être reposer une ou deux questions... lire le deuxième extrait.
Donc là, on avance, enfin, on dérecule un peu dans le livre. Dire au revoir, dire bonjour, penser au petit chien que je vais avoir un jour. The light is pink and blue, my hand burning of not holding you. Ça marche comme ça, l'amour, faut de l'air. Did not know the content of my love beyond my people. Je ne savais pas ce qu'était mon amour au-delà de mes gens. June Jordan, for the intellectual to emerge from the personal, you are another planet. Where are you? Really, what I am inside, Romulus situation. We speak of nothing that cannot find our minds. Tu as dit on peut décider de quitter ou d'attendre que l'autre nous quitte. Ce choix, le faire plus ou moins vite, puis porter ou être porté. J'ai souvent du mal à savoir qui de nous deux porte l'autre, pourtant j'essaie de basculer mon poids ou « No, thank you, that is not what I want right now ». Hier, j'ai dit « Non, pas maintenant, j'aurais préféré l'apprendre avant ». Holding that witness space, night, c'est à droite, juste au bout de cette rue. On peut juste se secouer pendant 30 minutes. Où il n'y a pas de mots, j'écris sur mes sentiments. I'm a butterfly, I'm saved, I should know better. Il me disait, je te baise, je me disais, waouh, et me regardait dans le miroir. Alors j'étais dans ma tête, alors lui, comme il disait, il était dans ma chatte douce. Il m'avait tourné vers l'extérieur du lit, sur le côté, face au miroir, comme au bord d'une falaise, que je tombe et qu'il me regarde tomber. Ou qu'il se regarde me pousser. Lécher les murs comme tu le cherches ou cela relève bien de ta responsabilité. Le but c'est le drame mais la vie c'est l'errance. Le poney c'est le début de la sexualité. Tu peux pas gérer le corps humain, tu gères le corps animal. Ponus est venu de ça. Deep hanging out, I sort of believe he was a dog. Déterminé à exister dans ce lieu. Rise, moi je suis toujours en canon, façon d'écouter et de parler. Now go eat, I know this guy licked my butt. Dure morsure, mon cœur au dehors vers toi, il me donne un lieu que je ne pourrais atteindre. J'ouvre des fleurs pour y lire les pétales. Ce sont des soleils, d'or elles te gifleront, je devrais me toucher, les tuer. Et les crânes mangent des iris comme des asperges, je me remplis de la colère des fleurs. Tu ne sentiras rien, me connais-tu? Night, c'est à droite, we speak of nothing that cannot fill our minds. Immaculée et fleurie, ça te décape de l'intérieur. Ces mots passent sur ses lèvres et le font bouger. Je sais ce qu'ils signifient. La ride là, tu te rappelles Bruxelles? Parce que dans la famille, la mort, ça n'existe pas. Now go eat, des asperges. J'hésitais à lui dire à tes côtés, j'ai rêvé, je fuyais 5 maris. De l'autre côté du jardin, que je devais pourtant traverser, dans la maison, là on le voit, à la fenêtre, dans la lumière, en contraste, car il fait nuit. Les autres sont autour, à tous les étages, dehors et en bas de la route, je reste dans la voiture de mon copain Oulu. Il dit comme il s'y sent en sécurité. Alors moi aussi, ce soir, l'un de mes maris est libraire, il porte des lunettes, ça va barder si je me fais cramer, 5 maris c'est un cauchemar. 50 euros par semaine, le patriarcat. Baby, here I say goodbye, handwritten name to see better. Je te vois en venir où tu veux. Check la transpi dans le miroir, toujours, et le ciel montre un peu de bleu. Café croissant, chant d'oiseau, l'oiseau s'approche, se promène et vient tout près de moi. Nous parlons, il s'envole et se laisse photographier sur le toit. I love immediately the perfume of this shop. Something in my mind you don't quite see what is important. Kauta Archi, page 145. La création littéraire devient ainsi la source vive d'un contre-discours historique. Stratégie de dévoilement des rapports de pouvoir à l'œuvre, pratique critique de l'histoire. Croire que la littérature serait dotée du pouvoir de modifier l'organisation politique d'une société, page 151. Ça marche comme ça l'amour, faut de l'air. With you, I know how to relax, and I work behind your back, which is lovely. Et comment aussi la littérature, quand tu l'as dépassée, rend ta vie un peu plus intense. Une émotion que j'ai, this beat is mine, tout le monde a des bails, sauf moi, I'm just kidding, this is real life, you know. Sois plus vieux, peur de chier, c'est la peur qui vit en nous très fortement. Et alors, on continue quand même à baiser et à rire quand il y a des gens qui ont de l'humour, et on rêve encore très peu. J'écris des chansons. Arrête avec ma cendre, ce bleu-gris qui m'étrange. Il interagit, c'est un chatter. Je vais faire un soundcheck sur une boombox. You should get one even closer to the moment. It was vegan, so everything is fine. Mais je déteste not having sex, on est d'accord. J'adore ce t-shirt bleu sur ce t-shirt feu. Il n'y aurait pas touché, touchant pourtant, rappelle la sensace quand on crie, où chaque chose a son équivalent exact et sans équivoque. En pleine nuit, j'ai quitté l'hôtel des eaux arbres, For Bob, Wavebooks, 2007. Sans titre, pas de réécriture. 53 pour Jordana. Chaque défaite, un film sans titre. Scribble the frame, something simple now. Cigarette girl to hell, every day, sorry tree. Quand je pense à t'aimer, je pense à ouvrir ma Bible et la renverser. JPP de garder mon amour dans des livres de prière. Avec toi, je nettoie une fenêtre. Avec toi, j'attrape le présent. Je me sens transparent. Je pense à disparaître dans la crème, cette tempête après qu'un monstre a détruit la ville oubliée à la porte. Est-ce nous? Pourquoi sourire? Ce matin, c'était l'été. Ta beauté est une flamme, elle m'enflamme. J'ai regardé le printemps pâlir. Man, the wind was big. Je vais penser et lire. Je vais me réveiller et t'aimer. Quand je rentre, je vais t'aimer. Je veux te montrer toutes ces petites parties du corps. Je crois un livre, c'est une toile qui dit toi là. Viens ici, pour sortir un pont de tremblement incessant. Ce qui est un arbre, j'imagine. Mon meilleur ami est I love you on so many birthdays. Tu peux pas lire sans l'écrire. Juste, Yel, te dessine, te déracine. Je te jure, c'est pas un hasard les mots. Je crois écrire et désir, je dois vivre. Please keep reading me. Je te jure, Yel me tient par le cou, les doigts, les seins, Yel me mène à l'eau, à l'encre, et ajoute, let me fry an egg on your ass and I'll pick up the mail. Te faire chialer, peanut butter. I love my friends, tout était si infini. Et si tout était infini, l'histoire de votre père, la séparation de classe, pour discréditer le mouvement. On poussait à une certaine violence. C'est peut-être pas idiot de mettre ça en scène, je sais pas. C'était pas dans le livre. Aujourd'hui même, il y a des débordements brutaux. Vous pensez que ça fait fondamentalement du mal? La violence qui perturbe. Vous pensez que ça peut avoir la peau de cette lutte? Non, je ne pense pas que ça peut avoir la peau, comme vous dites. Il y a plein de prolétaires, on a toujours besoin d'ouvrages qui décrivent l'expérience du travail. L'arbitraire de la surveillance, des humiliations aussi qui vont avec. Je trouve ça d'une beauté presque arrachante, tout son métaphorisme. Elle trouve ça une stratégie de rature, parce qu'elle n'arrivait pas à dire les choses avec une plus grande précision. Pauvre frisette, pauvre petite chienne, on se sert de toi dans l'espace. Et Genet s'est brisé, et Simone de Beauvoir, et la littérature, elle m'affaisse. Et là, écrire, c'est donner sa chaleur. Faire, l'imaginaire avec le vécu et vivre les romans. Des eaux arbres, des eaux l'arbre se laisse couler, mais que faire, je l'ai écrit, c'est là. T'as une fucking valise, mais pas de serviette. En anglais, c'est coming to l'écriture. Comme une éolienne à l'arrêt, c'est la mort et ses vagues dire je t'aime. C'est pas pour fumer que je viens. Je fume pas en dormant. Je pense t'es triste et tu te fais des idées. On a eu 6 heures de train. Elle travaillait furieusement. Nous, on se roulait des pelles. Tu le mets dans une salle et elle prend feu. We fall in love for the first time. Est-ce qu'on avait le choix même de l'aimer? Less of keeping my place. Se voit à 1000 kills que ma voiture, c'est une voiture électrique. C'est quoi le burger du moment? C'est pas le moment, Mega Smeralda, tu conduis de pire en pire juste pour te faire plaisir. More of not keeping my place, le cœur au garage accidenté, there is no such thing as confronting visibility.
Il y a des phrases que t'as pas lues, t'as fait le choix de pourquoi?
Bah, parce que quand on lit à voix haute, on a un peu la chance de pouvoir réécrire.
Des phrases que tu pourrais retirer? Ou juste qui ne s'inscrivent pas dans la lecture orale, quoi?
Bah, je trouve qu'il y a des mots qui se lisent mieux que d'autres, vraiment. Et je suis assez contente, si c'est moi qui lis, de dire bah, c'est moi qui lis, c'est moi qui ai écrit. Bon, bref, c'est là et ça me va. Mais aussi, je trouve que ce n'est pas le même poème écrit lu dans sa tête et lu à voix haute. Du coup, bah, autant profiter de cet écart-là.
Eh ben, merci Rosanna. Peut-être pour terminer, juste une dernière question sur tes projets plus actuels d'écriture, voire même de traduction. Sur quoi tu travailles en ce moment ?
Bah là, je viens de terminer la traduction d'un article pour la revue The Funambuliste, pour laquelle bah, je traduis des textes de l'anglais au français avec Virginie Bobin et Amina Belghiti.
Un article sur quoi ?
Un article sur... C'est fou parce qu'en traduisant, on est tellement caché mais pas caché, mais qu'il y a toujours une peur de mal dire ce qu'on traduit alors que quand même on l'écrit d'une certaine manière. Sur l'inséparabilité de l'africanité, de la noirceur et de l'autochtonie dans le contexte de l'Océanie noire. Et c'est une conversation. Et c'est pas vraiment une conversation, c'est un échange de je crois, de lettres et de lettres. D'un auteur, d'une autrice. C'est trop, trop bien. Et là, vient de sortir le dernier numéro du Funambuliste, donc le numéro précédent, qui s'intitule Le Retour. Et là, c'est que des récits. Il y a pas mal de fictions, de poésie et articles d'autrices palestiniennes qui imaginent le retour. Et c'est un trop beau numéro. Et d'ailleurs, il y aura des lectures à voix haute de ce numéro-là prévues pour le lancement. Et puis je travaille un livre en poème. J'écris un texte qui s'appelle Nono, qui commence avec des échanges avec quelqu'un très proche de mourir. Puis des phrases marrantes aussi dites qu'on peut dire quand on s'éloigne un peu de la vie. Et puis des livres pour enfants avec la maison d'édition Brooke. Et il y en a un premier qui est sorti qui s'appelle Les Arbres la nuit, dont Pablo Réol a fait les dessins et puis moi j'ai écrit le texte. Et c'est un livre sur un peu une amitié à distance qui peut plus trop se passer de la présence. Et puis un livre qu'on est en train de faire avec l'artiste Louise Siffert qui va s'appeler en principe Nous avons décidé de vivre toujours, qui est la continuité de son travail We have decided not to die, de performance et de vidéo. Qui est trop magnifique avec des décors incroyables, enfin, qui est un peu indescriptible, que ce soit qu'en performance ou qu'en film, tellement il y a deux composantes, un peu de dessin et puis d'histoire et de théorie sur l'amour et la mort et la fin et l'infini dedans. Donc je pense que ça va être un trop beau livre.
Ça, c'est pas un livre pour enfants, si. Si.
Oui, c'est un livre pour enfants.
Est-ce que tu veux nous lire au choix? Quelque chose de récent qui est un petit peu en dehors de ce livre de l'or, que ce soit sur Nono ou Les Arbres la nuit, ce que tu veux.
Oui, avec plaisir. Je vais chercher un peu quoi ? Enfin, je regarde, je vous demande. J'ai oublié de vous dire, je vais mourir. Cette fiction, on ne peut pas l'éliminer. C'est pas un truc, tu peux dire, c'est vrai. It's like the subject, an eclipse of the past. Selon les distances, il faut que je puisse gommer, rectifier, sans faire trop de gribouillis. Je pense à ma propre mort. Donne-moi des billets de 1000. C'est pour te donner un peu de blé. Patou, tu me donnes ce peu de fric et cette guitare? Donne-moi la monnaie, c'est très important, ça va permettre de bien dormir dans le train. Chez le père, ils ont baisé toute la nuit. Nono, blague, je suis pas hébreu, je suis hébrieux. Tu sais que la question, ce sera non. Va falloir apprendre la liberté. Les Doberman, ils ont la tête trop petite, ils ont tout le temps mal à la tête. Comment ils ont fait, ça devrait pas être fait. Regarde mon chien de race. Tiramisu veut dire tire-moi vers le haut ou emmène-moi au ciel. J'ai commandé un bisou, mais je sais pas s'il est arrivé. Je voudrais manger un tiramisu et après manger une glace. Who follows me, orgasmic et thématique. Mind asymmetries. Leave no trace, make it possible for others. Take care of the cup, from the table to the dishwasher, to the shelf, to the table, like the cup takes care of you. Suspend your disbelief. Et si pendant 3 heures, quelle est la chose la plus dangereuse avec laquelle vous avez rompu? Mon mari, la sexualité, ma mère, l'écriture, un job, la timidité, mon père, les opinions des autres, la religion de mes parents. Me regarder depuis l'extérieur, le besoin d'être partout, chez moi, une partenaire, l'indépendance. Un prêt étudiant, j'ai 20 trucs en tête, je peux pas choisir. Two planes. One is very low, going to Paris maybe. Je vais pas passer mes vacances à détacher cette chemise. En fait, around you the concept of the first page. Le prologue, c'est juste cette phrase. J'avais une bouche, c'était un trou, comme un autre. No introduction today. We will deal with them in the moment to host oneself. The session is quite scripted. Experimented about desire and complicity. No one way works. In response to the rise of fascism, thinking about beginning again. Probably finding direction, there are no page numbers. Je devais lire la première page de Brecht, Parade of the Old New. Mais Simon a lu à ma place. J'étais sortie pleurer dans le couloir comme si j'avais pleuré pour m'extraire de la pièce. En fait, les larmes dirigent, elles te permettent de t'échapper, t'ordonnent de quitter la pièce. C'est pas tu pleures, alors tu sors, c'est pour sortir tu pleures. Pour prendre la vague et surfer ton indépendance. Un mec en plein workshop avait jeté sa chaise en plastique, il venait de tomber. Elle s'était cassée, il était tombé, alors il avait soulevé la chaise et l'avait jetée fort au sol. D'abord à terre, il avait dit que c'était bien confortable. Genre pour se la péter, tranquille, je suis peut-être tombée, mais je reste un homme. There are no numbers. There are no page numbers, un petit livre dans un sac de perles. Je peux à peine toucher ton cœur parce qu'il y a tes seins. Un espace pour les monstres, une pièce à vivre, ton frigo couleur maïs excité, parfait pour la soirée anti-yadas.
Merci beaucoup, beaucoup Rosanna. Merci de t'être prêtée au jeu de l'interview, au jeu de la lecture. Un grand, grand merci aussi à Mathieu Hélène qui a monté cette émission. Pas fastoche à monter parce qu'elle a été enregistrée en deux temps pour de sombres raisons de bugs informatiques. D'ailleurs, on a dû couper de très beaux passages de lecture à cause de ces galères. Donc, petite pensée pour le texte pour Sandar et Hypatia qui n'a pas pu être diffusé malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est la vie de la radio. J'espère que vous avez tout de même pu apprécier le travail de Rosanna. Ses livres en tant qu'éditrice chez Brook ou son recueil de l'or chez After Eights, illustré par Aminata Labor d'ailleurs, on le mentionne, sont disponibles dans les bonnes librairies, dans les salons, les espaces critiques, enfin tous les lieux où la poésie et la pensée circulent. Nous, on se retrouve le 28 avril prochain pour une nouvelle heure de poésie contemporaine. Il est 21h sur Radio Campus Paris. Et il vient assurément de se passer quelque chose auprès de notre invitée Rosanna Puyol-Boralevi. Salut à tous!